Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mathieu, Mohamed, Pierre, Patrick, Jackie Ribaud. Pour le point cuisson de 20h, Jackie Ribaud, c'est le chef propriétaire de l'Ours à Vincennes et surtout, c'est le récipiendaire du prix de l'art LARD. 10 ans, je n'avais pas capté le jeu de mots tout à l'heure. Et bien voilà, ça, bravo pour ce prix du pied de cochon. Merci. Ce soir, de la bonite à Porrayer, qu'on voit vue aérienne, vue du ciel, là, claque, un petit plan vue du ciel, et qu'on va cuire minute, c'est-à-dire voilà. Qu'on la jette sur la peau.
On ne la jette pas, on la pose.
Oui, je l'ai posé, je l'ai posé.
Pour que la peau se caramélise.
Ouais.
Et après, on n'y touche plus, on va les laisser cuire comme ça sur le dos.
Très bien.
Et attention, ça va cuire pas plus de 7-8 minutes.
Ah oui.
Hein, parce qu'après le poisson, on va le laisser reposer un peu, il va tirer, et on va le poser dans l'assiette et on va le manger, comme ça il sera rosé à l'intérieur.
Pour l'accompagner une purée de chou-fleur où il y a vraiment, croyez-moi, plus de crème que de chou-fleur.
Comme toujours.
Comme toujours. Et pour...
Un peu d'encre de sèche.
D'accord, donc on aura les dents noires.
Toutes noires. Et la langue.
Et la langue aussi. Donc, dis donc, je suis en fumée.
Ça part bien, hein.
Oui, oui.
C'est
ça
sympa,
c'est
sympa.
Très
on n'a pas de ventilation, c'est ça quelque chose.
Merci, cher Jackie. Il y a tout le maquillage qui va couler. La chirurgie esthétique, jusqu'où aller ? S'offrir les fesses de Kim Kardashian, la bouche de Melania Trump, les yeux turquoises ou des implants mammaires. Autant de questions que se posent demain soir sur France 2. Caroline Vigneault, Anne Roumanoff, tout ça dans la salle d'attente d'un docteur Simès, vous allez voir, légèrement lifté.
Vous savez ce que j'aimerais refaire maintenant ? À quoi ça sert que le haut soit tout tiré si le bas est tout plissé ?
Oh, le docteur Poulain !
Pardonnez-moi, mesdames, j'étais en train de terminer un implant fessier.
Oh, justement, à propos d'implant fessier, je voudrais avoir les fesses de Kim Kardashian parce qu'elles sont trop plates.
Oui, très bien. Alors, qui est la prochaine ?
C'est moi. Ah non, c'est moi ! Je suis là depuis 14 heures, hier.
Oui, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je peux encore tuer. Docteur, je voudrais avoir la bouche de Melania Trump, la copine à Donald.
Moi, j'aimerais bien des yeux bleu turquoise.
Oui, mais moi, je voudrais de l'acné pour faire plus jeune.
Et un appareil dentaire.
Et des gros chiens. Parce que mes implants mammaires sont trop petits, faut tout refaire, docteur.
Ça, c'est vrai, c'est tout petit.
Anne Roumanoff n'a pas du tout besoin de lifting. Elle ne fait pas ses 35 ans de carrière. Un anniversaire qu'elle fête à l'Olympia entourée d'amis. Pour un show, Anne Roumanoff & Co s'amuse, mais elle passe d'abord ce soir par le plateau de C'est à vous. Salut Anne.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Ravie de vous accueillir. On vient de voir un extrait du deuxième numéro de Sketch Story. C'est l'émission d'humour de France 2 qui propose de transformer des sketchs cultes en mini-fiction. La femme refaite est évidemment l'un de vos personnages... préférée, quoi, que les spectateurs réclament. Est-ce qu'elle sera sur la scène de l'Olympia ?
Oui, alors je vais le faire avec Virginie Hoc, parce que je vais faire un autre sketch avec Caroline Vigneault.
Mais le refaire ?
Ouais. Oui, parce qu'en fait, du coup, j'ai ressorti ce masque et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais 5-6 ans, mais maintenant, tout le monde est comme ça, en fait.
Oui. ça fait peur, ça.
Non, mais c'est prémonitoire, c'est marrant.
La chirurgie esthétique, vous ne la conseillez... La chirurgie esthétique, vous ne la conseillez même pas à votre pire ennemi, Anne ?
Oh ben non, mais on peut faire des petits trucs.
Mais en particulier la liposuction. Vous dites, il vaut mieux arrêter de manger plutôt que de se faire liposucer.
J'ai fait ça. Non, mais je ne veux pas en parler.
Non, bon, bref.
Non, mais enfin, bref, non, mais si, ça fait très mal, enfin. Ça, je voulais dire.
Mais je me demandais qui était votre pire ennemi à qui conseiller une bonne liposuction pour bien souffrir.
Non, je n'ai pas d'ennemis.
Bon, oui, vous n'avez que des amis. D'ailleurs, vous serez entouré d'amis le 4 décembre prochain à l'Olympia, Alex Vizorek, Laurent Ruquier, Nicolas Cantelou, Elie Semoun, Virginie Hoc, donc, avec des sketchs de votre spectacle, Tout va presque bien, qui est actuellement en tournée en France, mais aussi des sketchs inédits, et vous bossez comme une folle pour les écrire.
C'est beaucoup de travail, en fait, parce qu'avec chaque humoriste, on travaille, on reprend certains sketchs à moi, parfois des sketchs à eux, par exemple avec Caroline Vigneault, on reprend un sketch à elle sur les droits des femmes, et en fait, on essaye de trouver des... d'adapter, on s'amuse beaucoup, mais c'est un boulot de malade, parce qu'en fait, chaque humoriste, ils viennent chez moi. Hier soir, il y avait Nicolas Cantelou chez moi, avant-hier Alex Vizorek. Et en fait, on travaille avec le metteur en scène Gilles Galliot. Je sais pas, c'est 2 heures de rendez-vous. Donc en fait, on écrit, on réécrit. Et parce qu'à l'Olympia, il faut que ce soit bien, quoi. Mais ça va être un... On est quand même 20 sur scène. Donc je suis très contente. Il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup. Et il y a des choses nouvelles. On parle de l'époque. Il y a des chansons. Il y a, voilà, ça va être...
Parce que vous avez une méthode de travail particulière, vous espionnez tout le monde, aux terrasses des cafés, dans la rue, dans le train, vous écoutez les conversations.
En fait, je fais ça depuis que je suis toute petite.
Ah oui.
C'est-à-dire, quand j'étais petite, je me souviens, au restaurant, j'écoutais la conversation de la table à côté et je pouvais la reproduire. Je suis curieuse de la nature humaine. Donc en fait, j'écoute, ça m'intéresse. Et puis j'ai aussi un truc, c'est que les gens me racontent très facilement leur vie. Donc des fois,
ils savent pas que ça va se retrouver en sketch.
Non,
quoi.
Mais parce que je m'intéresse aux gens et donc on me raconte. Mais parfois c'est fatigant parce que des fois les gens ont des problèmes et je veux pas tout savoir non plus. Et en fait, non mais c'est vrai. Et voilà. Mais tout ça me nourrit et.
Les origines de Radio Bistrot.
Aussi, oui, oui. En fait, le commentaire d'actu, c'est autre chose. C'est plus essayer de me demander sur l'actu quel est le ressenti des gens et de retranscrire. Mais c'est vrai que là, la période, elle est compliquée, mais, bah oui. Mais on arrive quand même à faire rire.
Exactement. Tout de suite, chère Anne, avant l'œil de Pierre, les infos express, enfin une info express ce soir. Vous nous parlez ce soir du Duo Day. Mathieu.
Oui, c'est aujourd'hui et chaque année une journée en fait, pour sensibiliser à l'intégration des personnes handicapées dans le monde professionnel. L'idée est simple, la possibilité de donner à une personne en situation de handicap d'accompagner la journée d'un salarié. L'an dernier, près de 10 000 entreprises ont participé. Elles ont accueilli près de 30 000 personnes. Et cette année, je vais vous présenter Viknesh Chandbarasan, un journaliste, jeune journaliste de 27 ans qui a passé la journée avec moi et puis avec toute l'équipe du 5 sur 5. Viknesh s'était déjà illustré dans une vidéo en ligne. Il y expliquait la galère que c'est pour un déficient visuel que de s'aventurer dans le métro parisien.
À Paris, il n'y a même pas 50% des lignes qui sont adaptées. Et même parfois, dans les métros qui sont là avec une synthèse vocale, des fois, il y a des bugs. Donc là, on est vraiment livré à nous-mêmes. Quand le métro il ne parle pas, bah, on prend la technique des doigts. C'est-à-dire que chaque arrêt, admettons j'ai 9 arrêts, je mets 9 doigts. Et chaque arrêt, bah, j'enlève un doigt. Dans la vie, en fait, je me dis que de toute façon, il y a toujours des problèmes, mais tout le temps, il y a une solution. Donc c'est comme ça qu'on y arrive.
Bonsoir, cher Viknesh Chandbarasan.
Bonsoir, Anne-Elisabeth. Bonsoir, tout le monde.
Salut. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. On était très heureux de vous accueillir ce matin dans la rédaction de C'est à vous, où je le précise, vous êtes arrivé avant Mathieu, qui était en retard. Donc vous êtes déjà bien plus ponctuel que beaucoup de journalistes de cette rédaction. Et la journée s'est bien passée?
Elle était top. Franchement, j'ai passé une excellente journée. Pour ne pas les nommer, bah avec Mathieu, d'autres personnes de l'ombre, David, Antoine, Juliana, Aurélie aussi, ils ont été adorables, Momo aussi, il m'a beaucoup chambré, donc ça s'est bien passé. J'ai appris beaucoup de choses et il y a des personnes extraordinaires.
Alors je vais préciser, Viknesh, vous voyez la lumière seulement, vous êtes malvoyant depuis vos 4 ans et demi, et vous avez choisi une carrière dans le journalisme. Quelle est la principale difficulté que vous avez rencontrée?
Aujourd'hui, j'ai énormément de difficultés pour trouver un emploi, parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de discrimination aujourd'hui, malgré toutes les journées du OD, entre autres. C'est bien, c'est positif, mais il y a énormément de problèmes pour trouver un emploi, parce qu'on juge sur l'apparence et pas sur les compétences de la personne et les qualités qu'elle possède. Donc ça, c'est dommage, je trouve. Mais ça devient mon combat quotidien et mon combat universel, donc c'est pour ça que j'essaye de faire avancer les choses.
Et vous me disiez d'ailleurs qu'il y en a d'autres que vous connaissez, comme vous, qui ont abandonné.
Ben moi, je ne lâche pas l'affaire. Donc moi, j'ai un peu plus compliqué. Je vais aller au bout de ce que je veux faire. Parce qu'être journaliste, c'est ma vocation depuis que je suis au collège. Mais il y a d'autres personnes, elles ont voulu, elles ont essayé, elles ont lâché dès le début.
Alors, on a dit journalisme, mais spécifiquement, c'est une carrière à la télé que vous visez. Et vous avez choisi, demandé de venir à C'est à vous. Est-ce que vous avez conscience, Viknesh, que ça peut paraître paradoxal? Pourquoi la télé pour une personne déficiente visuelle?
Ça peut être paradoxal, c'est vrai. Mais parce qu'en fait, la télé, c'est le format qui parle aux gens. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils voient la personne qui parle. C'est simple, c'est bête peut-être, mais on voit qui c'est. On associe une image avec la voix. Alors que sur les autres formats, pas forcément à l'écrit. Bon, on ne sait même pas qui écrit. On ne sait pas la voix ni la tête. Alors qu'à la télé, on peut associer ça. Donc surtout aujourd'hui, on est dans une société où la vision, l'esthétisme devient très très important. Donc c'est pour ces raisons-là. Et après, moi, je veux que les gens y comprennent que l'on peut réussir avec un handicap, que l'on peut avancer, se battre. Et la télé, je trouve que c'est un format extraordinaire.
La télé, c'est pas pour la voir, c'est pour que vous soyez vu, en fait. Qu'on ne puisse voir des non-voyants à la télé.
Bah après, moi, je peux pas la voir, de toute façon. Donc moi, peu importe. Moi, après, comme vous, par exemple, moi, je vous écoute, je vous vois pas. Donc quand
vous
je suis
vous
chez
écoutez,
moi,
c'est à vous.
Exactement, ben, c'est mieux. Et moi, j'écoute des extraits, parce que c'est plus rapide, c'est plus efficace pour moi. J'écoute des extraits sur différentes plateformes, on va
et
dire.
Et un podcast, c'est à vous, exactement.
Exactement, pour ne pas les nommer. Donc pour moi, c'est la révolution de ma vie, en fait, parce que je ne peux pas regarder. Donc c'est magnifique.
C'est quoi le job dont vous rêvez, Viknesh?
Dans quelques temps, bah, j'aimerais bien remplacer Anne-Elisabeth, pourquoi pas déjà. Bah,
Viknesh, venez, venez. Ah oui, pardon, je suis idiote, pardon. Non, non, mais pourquoi pas, Viknesh? C'est vrai qu'il n'y a pas assez de personnes différentes à la télévision.
Bah, il n'y a pas assez, il n'y a pas tout court, en fait, vous voulez dire.
Il n'y a pas du
Parce tout, qu'en ouais. fait, là, on parle du journalisme, mais dans d'autres domaines, c'est pareil. Au cinéma, dans le domaine de la culture, il y a très peu de monde en situation de handicap visuel. En situation de handicap, un peu, mais en situation de handicap visuel, il y a très peu. Moi, je connais quelques personnes personnellement, mais le grand public, il ne connaît personne. C'est pour ça qu'en fait, je parle de combat en quelque sorte, parce que moi, habituellement, je suis avec une canne blanche. Bon, aujourd'hui, je n'en ai pas eu besoin, j'en ai d'autres comme canne, comme Mathieu, etc. Donc, c'était plus efficace. Mais j'ai besoin de canne blanche. Et du coup, bah, ça fait juger de manière apparente, parce qu'on me voit avec la canne. Du coup, on se dit, bah, c'est une personne en situation de handicap, c'est compliqué, on ne peut rien faire pour elle.
Mmh. C'est le sport qui vous intéresse en particulier, Viknesh?
Le sport, forcément, en fait.
Donc, c'est la place de Mohamed que vous voulez, c'est pas du tout la mienne.
Ouais, les deux au pire. Je vais faire les deux. Non, mais moi, je l'aime bien, je le connais depuis longtemps en plus. J'ai suivi son parcours, donc forcément. Mais après, le sport, oui, parce qu'en fait, le sport, c'est quelque chose qui nous permet de distraire. C'est un loisir comme tout le monde, ça nous permet de se défouler. Moi, je suis joueur de CC Foot, donc c'est du foot pour déficients visuels. J'ai aussi mon asso, en quelque sorte, pour sensibiliser les personnes au handicap visuel. Et j'interviens dans les entreprises pour que les salariés, par exemple, ils se rendent compte que par l'intermédiaire de l'échange, du partage et de la communication, on peut resserrer les liens, faire confiance à l'autre. Et du coup, j'interviens pour ça dans les entreprises, dans les écoles primaires aussi, pour montrer qu'on peut être tous différents selon notre culture, notre environnement, notre état. Mais sur le terrain, avec un bandeau sur les yeux, on a tous besoin des autres. Et peu importe notre état, on peut tous réussir malgré tout, en fait. Donc, merci, je suis joueur pour ça, et voilà.
Et on a une très bonne équipe de CC Foot, une très belle équipe de France.
Exactement.
Merci beaucoup, Viknesh Mbarassane. Est-ce que vous voulez bien, pour me remplacer, lancer l'œil de Pierre? Vous le ferez sans doute mieux que moi.
Alors, tout de suite, je vais donner la parole à Pierre Lescure, qui va nous parler de son œil. Mais je suis curieux de savoir de quoi il va nous parler.
Merci. Eh bien, je vais vous parler d'un père et d'un fils qui sont en tournée en ce moment depuis plusieurs mois, Jacques et Thomas Dutronc, qui connaîtront le bouquet final de cette aventure musicale et familiale le 21 décembre prochain à l'Accor Arena. L'an prochain, on aura le live de cette tournée, mais il y a 10 jours est sorti Dutronc et Dutronc, un bijou de dialogue en chanson, un mélange des tubes du fils et du père dont ils ont revisité les arrangements. Je les ai rencontrés ce matin, Jacques évidemment avec ses lunettes noires, bien qu'il ne soit pas déficient en vue, mais ce matin, Thomas aussi avait ses lunettes, du coup, j'ai mis les miennes. Jacques, Thomas, bonjour.
Bonjour Pierre.
Ça me fait plaisir de vous voir, vous revenez de Lille où vous avez fait un concert triomphal hier. Ça a été dur, Jacques, de convaincre Thomas de faire cet album?
Oui, mais bon...
Quel est l'argument qui a fait qu'il a eu envie?
Père, quoi, qui a fonctionné. Je lui dis, je suis ton père, tu es mon sang, mon fils. Fais cet album, je t'en prie. Non, mais il a eu quand même un plan assez astucieux. C'est qu'il a fait ça très discrètement.
J'ai présenté ça de manière que ce soit un plaisir, quoi. Pas du travail, quoi. Il ne faut pas prononcer le mot travail.
Non, non, mais il y a plein de chansons, je ne savais pas du tout que j'allais les faire, d'ailleurs.
Alors évidemment, c'est un peu comme pour les sketchs. Quand on réadapte des tubes mythiques, on risque de décevoir les puristes et les fans de l'époque, au minimum de les dérouter. Là, franchement, c'est totalement réussi.
Il y a quelqu'un qui m'a dit une belle phrase, c'était qu'on avait réussi sur certains titres, peut-être pas tous, à moderniser... l'indémodable.
J'avais vu une autre formule, moderniser l'intemporel.
Ah, bien aussi.
Ça, c'est mieux.
C'est pas mal.
Parce qu'être à la mode, c'est déjà être démodé.
Oui, alors attends, je la refais. J'ai entendu une phrase, c'était moderniser l'intemporel. Comment tu as dit?
Moderniser l'intemporel.
Moderniser l'intemporel. Fais pas ci, fais pas ça. Ah, là, là, calé. À cheval sur mon mille, tête de mule, tête de bois. Tu vas recevoir une veille. Ouais, c'était ma préférée avec les Playboys aussi. Ouais. Sauf que quand j'avais 5-6 ans, j'avais pas compris tout le coup du joujou extra, forcément.
Cette collection de chansons père-fils permet de se rendre compte de la place essentielle qu'a eu Dutronc au milieu des années 60 dans la chanson pop-rock moderne en France.
Il y a souvent plus de groupes anglais qui me citent par rapport au rock'n'roll que des Français, en tout cas. C'est incroyable, ça.
C'est vrai,
ça.
Ouais.
Finalement, il n'y a que lui, t'écoutes ses chansons, ça n'a pas pris une ride, c'est vraiment... ça le fait, quoi. Moi, je suis fan, alors je suis peut-être pas très bien placé, mais j'ai quand même du recul en musique, et j'avoue, c'est
vrai. Jamais su.
Et l'attitude aussi, c'est ça, les Anglais qu'aimait papa, il me disait, il a l'attitude rock, quoi. Même punk rock, il disait...
Ouais. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon vœu.
Vous verrez dans l'album que je vais vous offrir, bien sûr, chère Anne, ils ont ressorti des titres peu connus du père, par exemple « Responsable », ou encore « Sur une nappe de restaurant » qu'on n'a pas assez entendu. Puis ils ont même repris une très très jolie chanson de Thomas, qui était passée un peu inaperçue, qui s'appelle « Aragon », et ils la reprennent tous les deux.
Moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon lourd se déshabille. Dans les bras semblables des filles. On faisait des châteaux de sable. On prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était-elle ou non drôle?
Et avant de se quitter, Jacques nous a raconté une anecdote de ses débuts quand son éditeur, Jacques Volson, est allé à Europe 1 présenter son premier 45 tours.
Jacques Volson, c'est avec lui que j'ai enregistré Et moi, en juin, je crois, 66. Donc, il décide d'aller le faire écouter à Lucien Maurice.
Qui était le patron d'Europe 1.
Patron d'Europe 1. Et donc, il le passe. Alors, Volson inquiet dans le genre. Alors il va voir Lucien. Il dit, alors, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, ouais, pas mal, mais par contre... Il y a un truc génial. Alors Volson se dit le son, tout ça, les instruments. Non, non, d'avoir trouvé Jacques Dutronc comme nom. Alors c'est un chapeau. Il a dit ça, alors c'est un... Qui va imaginer ça?
Ça, c'est extraordinaire. Il...
Ah oui, parce que tous, ils s'appelaient James Machin ou Johnny Machin ou Eddie Machin à l'époque. Eh oui. Mais c'était pas mal.
Ça, c'est génial. Ça, on peut le raconter sur scène. Elle est bien, cette anecdote.
Elle est vachement bien. Dutronc et Dutronc, l'album studio à ne pas manquer, je vous l'offre, chère Anne. Et pour vivre avec eux cette chance magnifique de les voir partager la scène, sachez qu'il reste des places pour le 23 à Pau, le 24 novembre à Toulouse, le 6 décembre à Bordeaux et le 13 décembre à Bruxelles, aux Forêts nationales.
Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Viknesh, à très bientôt sur le plateau de Tout à vous. Merci. Salut Mathieu, demain à l'heure pour la conférence de rédac. Tout de suite c'est l'heure du bus qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
Nous commençons par une information de dernière minute. L'agence AP informe qu'un missile russe s'est abattu sur le territoire de la Pologne et a tué deux personnes. Mais nous avons un communiqué du porte-parole du gouvernement Piotr Müller qui a indiqué aux journalistes que nous nous trouvions en situation de crise et qui a demandé de ne pas diffuser des informations non vérifiées, ce que nous respectons.
C'est un nuage de fumée qui aurait pu faire entrer les pays de l'OTAN dans la guerre contre la Russie. Une violente explosion sur le territoire polonais, membre de l'OTAN, qui a fait deux morts dans une exploitation agricole et laissé un profond cratère dans le sol.
Qui a tiré le missile qui a explosé en Pologne, faisant deux morts hier après-midi? Les dirigeants occidentaux et l'OTAN pensent qu'il s'agit d'un projectile tiré par la défense anti-aérienne ukrainienne. Le président Zelensky affirme ce soir le contraire.
Quel est le métier de Thomas Pesquet?
Oh, facile. Oh.
Astronaute.
Oh, shit, shit.
Oh, oh, mon Dieu.
Zéro pour les guèdes.
Je sais même pas qui c'est. Moi, j'ai su qu'il parlait des pains au chocolat. Et l'autre, il dit astronaute, comme s'il savait c'était qui aussi. Je suis sûr, on lui a soufflé.
2, 1, back to the moon and beyond.
Vers la Lune et au-delà. 7h27 du matin, heure française. Le décollage de la mission Artemis illumine le ciel de Floride.
Pour rendre sa grandeur et sa gloire à l'Amérique, je vous annonce que je serai candidat à l'élection présidentielle.
Vous savez, le succès, on l'a de naissance ou on ne l'a pas. C'est une question de génétique, d'hérédité, et j'y crois fortement.
On s'est rendu compte qu'en 2018, malheureusement, la concentration en spermatozoïdes a tout simplement été divisée par deux. Ça veut donc dire que les hommes ont quasiment deux fois moins de spermatozoïdes dans chaque millilitre de sperme. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la pente continue de s'accélérer. On perdait en moyenne dans les années 70 1% de spermatozoïdes par an. Désormais, en 2018, voire 2020-2022, c'est 2%. Et on se demande jusqu'où va aller cette baisse de spermatozoïdes.
Oui, ce déclin observé partout dans le monde inquiète bien sûr les chercheurs qui appellent de toute urgence à de nouvelles investissements.
Le progrès pour nous, c'est d'avoir la forêt, les animaux, les rivières telles que Dieu nous les a laissées. Le projet des Blancs est totalement différent, car ils pensent faire le bien, mais ils détruisent la nature avec le progrès.
Le Qatar est un tout petit pays. Comment va-t-il faire pour accueillir tous les supporters du monde ?
C'est vrai, j'y avais pas pensé. Comment ça va se passer ?
Il va tout simplement pas y arriver. Hein. Il va pas y arriver du tout. Même si des hôtels ont été construits, bah, ça va pas suffire. Résultat, et bah, des supporters vont loger dans d'autres états, carrément de la région, hein, à Dubaï, au Koweït, et faire tous les jours la navette pour aller voir les matchs, rentrer à l'hôtel. Et tout ça, ça fait 160 vols quotidiens. C'est un vol toutes les 10 minutes.
En France, une nouvelle aide en préparation après la baisse des ristournes sur le carburant. Depuis ce matin, faire son plein coûte plus cher.
J'ai trouvé une technique, c'est que je mets que 50 euros à chaque fois. Alors j'ai l'impression de pas consommer.
La route du Rhum endeuillée. Le navigateur Charles Caudrelier remporte la course avec un temps record d'ailleurs. Mais un bateau suiveur a chaviré en Guadeloupe, il y a deux morts.
C'est n'importe quoi l'Ocean Viking. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Anne-Sophie. On doit le faire et prendre exemple sur d'autres pays comme Dubaï qui accueille depuis des années toute la misère intellectuelle de France. Oui, eux, ils voient chaque jour des jets privés remplis d'influenceurs et influenceuses qui ont survolé les océans au péril de l'environnement et qui arrivent affamés. Oui, ces migrants ont faim d'argent facile, d'abonnés et de collagène. Et Dubaï a la grandeur d'âme de leur offrir un bel accueil à leurs conjoints, leurs enfants et leur égo. Bravo à eux et Hear the World.
Qui dit Coupe du Monde dit aussi concert exceptionnel, des concerts que certaines stars de la chanson ont décidé de boycotter. Parmi elles, le rocker Rod Stewart qui a décliné une proposition pourtant alléchante du Qatar.
On m'a offert beaucoup d'argent, plus d'un million de dollars pour y jouer.
Mais d'autres artistes ont de leur côté confirmé leur présence, les Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta ou encore Gims qui interprètent l'une des chansons officielles du mondial.
Hugo Lloris refuse de porter un brassard arc-en-ciel en soutien aux droits LGBT.
Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qui se prête à nos règles. Mais j'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar.
On peut comprendre qu'Hugo Lloris ait été traumatisé dans son autre vie, pendant peut-être son passage à l'Olympique Lyonnais, où il entendait ça en permanence.
J'ai cette putain de double casquette que je dois toujours porter et assumer. D'un côté, je suis arabe, et de l'autre, je suis gay. Je dois donc confronter le racisme et aussi l'homophobie. Déjà, un, c'est fatigant. Imagine les deux. Le pire, je pense, c'est être une femme en plus de ça, car tu vas avoir le sexisme.
En Iran, la contestation entre dans son troisième mois. Trois nouveaux manifestants ont été condamnés à mort. Les mouvements de protestation et la répression se poursuivent. Des images de policiers tirant à balles réelles nous parviennent via les réseaux sociaux, comme ici dans le métro de Téhéran. D'autres images de répression sanglante ont été publiées depuis Rasht, dans le nord du pays.
Voilà pour le vu du jour. Bernadette est un peu nouille. Un peu à côté de la plaque, mais pas totalement idiote, elle s'est même offert le luxe de faire l'Olympia en 1998.
Yann Roumanoff se lance avec son personnage fétiche Bernadette, une sorte de bécassine à l'accent du sud-ouest.
C'est ma chérie, le café c'est pas comme le Nesquik, faut mettre un filtre. Non mais c'est très bon quand même, tiens regarde, papa il va le voir le café. Non mais tu sais on parle tout le temps des nouveaux pères. Moi, je dois être tombée sur un ancien.
Bah, j'adore ces femmes-là qui sont un peu nouilles, mais très sympathiques, donc un peu à côté de la plaque, mais elles sont jamais complètement idiotes. Hein.
C'était des images de votre première Olympia. Ouais. Voilà. Depuis, vous en avez fait 6 et ce sera le 7e, me semble-t-il, le 4 décembre prochain. On aperçoit sur les images de ce reportage votre mère Colette, ouais, qui était peut-être, l'est-elle encore, à l'époque, votre metteur en scène.
Bon, alors, c'était les 10 premières années, on a effectivement travaillé et écrit ensemble et c'était un soutien très précieux, quoi.
Et pourtant, vous ne lui avez pas tout de suite fait confiance, parce que ce n'était pas du tout
en fait, parce qu'au départ,
un métier auquel elle était destinée.
Non, parce qu'en fait, au départ, j'ai commencé à faire des sketchs de manière un peu empirique. Elle était là, elle m'avait donné des conseils. Et bon, et après, j'étais partie au Club Med, j'avais fait des sketchs, j'avais fait rigoler les gens. Je suis revenue à Paris, j'ai re-raté des auditions de théâtre, mais j'avais l'habitude. Et après, je me suis dit, ben, je vais essayer de faire des sketchs quand même. Voilà. Et elle m'a donné des conseils. Et à un moment, il y avait une metteur en scène professionnelle qui m'a dit, oui, ta mère n'est pas une metteur en scène, moi, je vais te faire travailler. Et en fait, j'ai travaillé avec elle et elle, pour le coup, elle m'a fait perdre toute confiance en moi parce que c'est très subtil, la mise en scène au one-man show. Il faut beaucoup de finesse, comprendre qui est la personne, l'aider à émerger, à sortir d'elle-même. Enfin, c'est pas du tout simple, en fait. Et donc, après cette mauvaise expérience, je suis retournée voir ma mère et j'ai bossé avec elle. Et on a travaillé 10 ans et ça a été très fructueux, quoi.
En étant beaucoup plus gentille, parce qu'au début, tout ce qu'elle disait, comme c'était votre mère, forcément, c'était nul. Quoi.
C'était un peu curieux, parce que pendant longtemps, avec ma mère, on n'était pas forcément... Enfin, c'était pas des relations simples, mais chaque fois qu'on travaillait ensemble, c'était miraculeux, ça marchait très bien. Et maintenant, on s'entend très bien. On travaille plus ensemble, on s'entend très bien.
Ce personnage de Bernadette, il vous a collé un peu à la peau?
C'est un personnage que j'ai créé à la classe en 87, où en effet, c'était une... J'avais, à l'époque, déjà, j'avais plein de personnages, mais je faisais ce personnage-là, et ils aimaient bien que je le fasse, donc... Il y avait des gens qui croyaient que j'étais vraiment une fille du midi, un peu, alors que je sortais de Sciences Po.
Un peu sotte, quoi.
On peut être sotte en sortant de Sciences Po, c'est pas problème, mais c'était comme un double, en fait. Un peu.
Et puis surtout, il faut être un peu, même très intelligente, pour bien jouer la sottise.
Oui, bien sûr. Et, mais mes personnages, je pense qu'ils ont encore toujours un aspect de naïveté. Et puis en même temps, il y a une lucidité aussi sur la nature humaine. Mais il n'y a jamais de cynisme, en fait, je pense. Même maintenant, avec toutes les expériences de la vie qui ne sont pas toujours agréables, je ne pense pas être cynique. Les gens, et c'est pas... Mais souvent, les gens sortent de mes spectacles, ils rient, mais surtout, ils sortent, ils sont... Je sais pas, j'ai réussi à les faire oublier leurs problèmes pendant... C'est déjà pas mal, pendant 1h30, quoi.
On a donc pu vous prendre pour une idiote ou une fille un peu limitée jusqu'à ce passage télé un après-midi sur Antenne 2 où Thierry Beccaro vous a outé. Et on croit que bien que c'est la première fois.
J'ai cru comprendre que vous étiez diplômé de Sciences Po. Alors ça mérite quand même une explication.
Ça m'a intéressé ces études, donc je regrette pas. Mais je suis très contente d'être... De toute façon, j'ai toujours voulu être comédienne, même quand j'ai fait Sciences Po. Donc... Ouais,
vous ne me dites pas tout. Hein. Je vais le dire parce qu'elle ne le dit pas, mais elle rêvait d'être Isabelle Adjani. C'est vrai ou pas?
C'est pas la peine de répéter tout ce qu'il y a dans le dossier de presse.
C'est vrai ou pas?
Oui, c'est vrai. Mais j'ai honte de... Ouais. Bah, c'est quand j'avais 15 ans et que je prenais des cours de théâtre, je rêvais de faire pleurer les gens. Et puis en fait, bon, bah, ça n'a pas du tout marché.
Voilà, Sciences Po, donc une carrière plutôt politique, le rêve d'Isabelle Adjani, enfin tout qui se mélange là-dedans, et on en prend plein de choses à ce moment-là par la voix de Thierry Beccaro. Mais c'est vrai que vous tentez le conservatoire, l'école de la rue Blanche.
En fait, j'ai fait tous les concours de théâtre possibles. En fait, je suis rentrée dans un cours de théâtre à 12 ans, donc j'ai vu des débuts aussi de gens qui sont devenus des stars, c'était marrant. J'ai vu les premiers cours de théâtre de Vincent Cassel, de Mylène Farmer, de Yvan Attal, de Vincent Lindon, enfin ouais. Tous ces gens-là, quoi.
En fait, votre rêve, c'était la scène, quoi.
Non, mon rêve, au début, c'était vraiment le cinéma, mais ça a pas abouti. Et en fait, je me suis mis à faire des sketchs parce que le reste ne marchait pas. Voilà. Ouais. Et bien, par contre, dès que j'ai fait des sketchs, ça a très bien marché.
Et le déclic, paraît-il, c'était pendant votre dernière année de Sciences Po, lors d'un séjour au Club Med, c'est vrai?
En fait, j'ai redoublé la dernière année de Sciences Po parce que j'ai bossé comme une malade la première année. Vous pouvez se faire virer. Et après, je l'ai un peu pris, genre, oh, bah, c'est facile, Sciences Po, puis c'était sympa. Et puis, je prenais plein de cours de théâtre, donc j'étais un peu... Ouais. Et en fait, j'arrivais au premier diplôme, bang, 6,5 sur 20. Donc voilà, donc j'ai redoublé. Et là, la dernière année, j'ai vraiment travaillé. Et donc, je suis partie au Club Med. J'étais rentrée jeune à Sciences Po à 17 ans. Ah oui. Donc, je crois que je suis partie au Club Med, l'été de mes 21 ans. J'avais pas 21 ans. Et là, je me suis dit, je vais oser. En fait, je faisais des sketchs depuis l'âge de 12 ans, mais chaque fois, dans les cours de théâtre, on me disait, c'est bien, mais c'est pas du théâtre. Donc j'étais vexée comme un pou. Et je voulais faire du théâtre. Et voilà. Donc, à 15 ans, quand on me demandait de faire des sketchs, je disais, j'ai arrêté de faire des sketchs. Je fais plus de sketch.
À 15 ans?
Oui, parce que je fais du théâtre. Je me la pétais un peu. Ouais. Et en fait, au Club Med, il n'y avait pas de prof de théâtre, donc j'ai fait des sketchs. Les gens ont rigolé. Je suis rentrée à Paris, j'ai repassé en concours de théâtre la rue Blanche, où les gens, j'ai fait rigoler le jury, mais ils m'ont toujours pas pris. Et après, j'ai
vous avez bien fait de vous obstiner, quand même.
Et après, j'ai commencé à faire des sketchs. Quoi.
Et pour l'humour, pour les sketchs, une femme vous a beaucoup inspiré, Sylvie Joly.
Oui.
Je suis en train de faire un petit sondage sur l'avis des femmes sur le cinéma. Est-ce que je peux vous demander votre avis à vous, madame ?
Mademoiselle.
Oh, pardon, mademoiselle.
Moi, à mon opinion, c'est que le cinéma, c'est surtout dans la mesure des grandes vedettes.
Très rapidement, votre avis sur le cinéma, mademoiselle.
Oh, bah, cinéma, je paye 10 balles, 15 balles, bientôt 20 balles. Je me farcis une toile, histoire de faire sauter la soupape, histoire de prendre mon pied.
Vous l'avez vraiment beaucoup aimé, elle. Hein.
Mais ça m'a vraiment déclenché quelque chose, première fois que je l'ai entendue, parce que ce que je trouvais génial dans ce sketch, c'est qu'elle passait d'une classe sociale à l'autre. Il y avait une femme populaire, il y avait une femme très chic, il y avait le fameux sketch de la coiffeuse, il y avait une personne âgée, il y avait une petite fille. Et je trouvais ça extraordinaire de pouvoir changer de point de vue comme ça.
Et vous l'avez imité, vous l'avez entendu, vous aviez 12 ans, je crois.
Oui, je l'ai imité, oui.
Ouais. Ouais. Et alors aujourd'hui, vous inspirez d'autres jeunes humoristes. Et j'ai entendu dire qu'il y avait même une jeune humoriste d'un pays étranger qui vous pique vos vannes.
Alors, c'est pas une jeune.
Ah bon ?
Non, mais c'est une vieille histoire. Voilà. Non, mais c'est arrivé. Quoi. Mais c'est flatteur quand on vous vole,
bien
en
sûr,
fait. Voilà, c'est arrivé plusieurs fois. Mais c'est flatteur. Les gens peuvent voler l'idée, ils peuvent voler la manière. Mais c'est pas grave, en fait, en vérité, au fond.
Vous savez, Anne, que l'on va fêter un autre anniversaire cette année. Les 15 ans de Radio Bistrot à Vivement Dimanche.
Je suis pas inquiète parce qu'au gouvernement, ils prennent des mesures très efficaces pour lutter contre les problèmes de manque d'énergie. Ils vont éteindre la tour Eiffel à 22h. Là, je pense que ça va aller beaucoup mieux. Il y a un nouveau mot qui est apparu, je ne sais pas si vous avez vu, c'est sobriété énergétique. Alors, on connaissait sobriété alcoolique, c'est quand tu ne bois pas d'alcool. Sobriété énergétique, c'est quand tu ne fais plus rien. Oui, parce que l'avion, c'est pas bien, la voiture, c'est moyen, le vélo, ça va, la marche, c'est bien. Je ne sais pas comment on va se déplacer cet hiver, mais une chose est sûre, on va ramer.
Là, vous parlez de politique, c'est présent dans vos spectacles, mais en revanche, il y a eu un déclic avant de parler de politique.
Bah en fait, comme j'avais fait Sciences Po, pour moi, Sciences Po, c'était pas de l'art, et moi, je voulais être actrice. Et puis après, je sais pas, pendant des années aussi, je me disais, bah, y a les Guignols qui parlent très bien politique, y a Bedos, je voyais pas vraiment qu'est-ce que je pouvais apporter de plus, en fait. Et puis, si parler politique, ça consiste à dire que tous les hommes politiques sont débiles, ça ne me plaisait pas.
Et c'est la guerre en Irak qui a changé les choses.
Il y a la guerre en Irak où j'ai créé, ouais, c'est parce que j'étais tellement énervée par Bush qui bombardait, je sais pas. Et à un moment, j'ai créé ce personnage du bistrot. Et puis après, il y a eu Sarkozy qui était quand même quelqu'un de très facile, en fait. Il n'y avait même pas besoin d'écrire, il suffisait de raconter ce qu'il faisait, les gens riaient, en fait.
Et d'ailleurs, pour nourrir votre plume, vous avez besoin d'être en colère, ça veut dire que c'est plus compliqué de faire rire avec le bonheur ?
Oui, bah on fait pas rire avec le bonheur. Ils se marièrent et ils furent très heureux, mais il n'y a pas de sketch. Ils se marièrent et ont beaucoup de problèmes, on fait ha ha ha. Non, on fait rire, oui, bien sûr. La dramaturgie, c'est quand il y a des problèmes, en fait, bien sûr.
Ce que vous dites là dans Radio Bistrot, vous n'oseriez pas le dire dans la vraie vie, Anne ?
Oh non, dans la vie, j'ose dire. Non, non.
Oui.
Non, non, bien sûr. Mais après, c'est pas tellement de trouver un thème qui est compliqué, c'est de trouver un axe pour rendre drôle quelque chose qui ne l'est pas, quoi. C'est ça la difficulté.
Passer chez Michel Drucker, ça fait 15 ans, c'est
15
ça
ans.
Que vous êtes, ça a été une révolution dans votre carrière ou pas ?
Il y a eu plein, je veux dire, j'ai eu Guy Lux, qui était un truc très important, la classe. Après, j'ai été avec Ruquier sur France Inter, où je suis restée 5 ans, où ça a été aussi très important. D'ailleurs, c'était drôle, au début de ma carrière, il y avait les gens de la classe qui étaient assez populaires, et les gens qui venaient de France Inter, qui n'étaient pas du tout le même public. Et quand les gens m'attendaient à la sortie, je disais, tiens, lui, il vient de la classe, lui, c'est France Inter. Et après, il y a le public de scène qu'on se constitue, c'est-à-dire les gens qui vous ont vu une fois, deux fois en spectacle. Un jour, un producteur m'a dit, ce qui est important, c'est pas que les gens viennent te voir une fois, deux fois, mais qu'ils payent pour revenir une troisième fois parce que le spectacle leur a plu. Et c'est ça que je pense qui fait des longues carrières, c'est que les gens reviennent, quoi.
Mais là, ça fait 35 ans qu'ils reviennent, quand même.
Ouais. Mais moi, j'ai pas l'impression...
T'as pas des cartes de fidélité pour certains ?
J'ai pas l'impression que ça fasse autant de temps, en vérité. Ça me surprend.
Ben si, pardon de vous déprimer.
Non, non, c'est ça beau. Me déprime. C'est beau, franchement.
Non, mais oui, c'est beau.
C'est bien, c'est bien.
Exactement. Et puis cette relation, elle ne se dément pas sur la longueur avec les Français, puisque vous faites régulièrement partie des personnalités préférées des Français. Et ça, j'imagine que ça vous touche, Anne.
Ah oui, ça me touche. Je suis jamais dans les premières, mais je me maintiens. Je suis dans les 15e ou un truc comme ça.
Mais vous maintenez.
Ouais, je me maintiens.
Ben voilà.
Il y en a qui sortent du classement aussi.
Ben oui, je sais.
Il y en a qui rentrent jamais.
Vous n'y êtes pas ?
Ben non.
Vous voulez lancer un appel ?
Quelque chose. Donnez-moi votre place pour une année. Voilà, Anne, Anne-Elisabeth, c'est pareil. Anne Romano & Co. s'amuse.
Anne Romano & Co.
Qu'est-ce que je dis ?
Romanoff.
Anne Romanoff & Co.
Les droits de l'homme.
s'amuse, c'est le dimanche 4 décembre à l'Olympia.
Avec plein d'invités. Oh,
j'en ai cité quelques-uns.
Oui, il ne faut pas oublier, il y a Nicolas Canteloup, Laurent Ruquier, Alex Vizorek, Jean-Luc Lemoyne, Donald Jackson, Caroline Vigneault, Virginie Hoc. J'ai peur d'en oublier. Frédéric Sigrist, Régis Maillot, Elodie Arnoux, Isabelle Vitari.
Waouh.
Oui.
Wow. Okay.
Ah oui, donc il y a du monde.
C'est Jean-Philippe Janssen.
Voilà, c'est vraiment Enco.
Oui, Elie Semoun, on appelle.
Et dans un instant, un de vos confrères, des grosses têtes, Paul El-Karat, qui nous rejoint pour le dîner d'ici la GTA ça, Zoé Bruno.
GTA ça. Ah.
Dis donc, je me souviens de ce bracelet. C'est vieux comme Hérode, ça.
C'est vrai, tu t'en souviens? Ouais. Je l'ai retrouvé en faisant du tri dans ma cave.
Oh, t'as enfin fait de la place pour ma salle de répète.
Bah, disons que j'ai essayé. J'avais perdu la clé, donc j'ai demandé à mon petit voisin Arthur de venir m'aider à faire sauter le cadenas avec sa pince coupante.
Il a une pince coupante, ton voisin?
Oui. Je sais pas pourquoi, je veux pas savoir. Oh là là, il y en a partout.
Ouais.
Oh, l'ancien landau de mon fils. Oh. Bon, bah je jette, hein. Tant pis.
Zoé, franchement, moi, je veux bien le garder, hein. Tu sais, si je mets un peu de glace dedans, ça peut être cool comme ça à bière.
Oh bah oui, si tu veux.
Tu veux bien?
Oh, vas-y, prends-le. Ouais, ouais. Oh là là, mon bracelet, je l'adorais, celui-là. Il est moche, en fait.
Ouais, vraiment.
Ça, c'était mes affaires de pom-pom girl avec... Oh! Une capote à la fraise. Ça me rappelle Guillaume Morin, tout le monde l'appelait le Gorin.
T'as couché avec le Gorin?
Très sommairement. Oh. Le pauvre. À 17 ans, il ressemblait déjà à un généraliste à la retraite.
Ça, là, tu gardes ou tu jettes?
Bah, ça, je jette.
Tu jettes?
Bah oui.
Je peux le garder, ça te dérange pas?
Non, mais...
Tu sais, je pourrais en faire un petit bougeoir mural. Je le pose, avec la bougie, tout ça.
T'as vachement d'imagination, quand même, hein? Tiens, aide-moi, prends ça.
Toi, t'as un lecteur DVD?
Ah non, ça, excuse-moi, c'est une PlayStation 1.
Mais non! Mmh. Oh, j'avais jamais vu une pour de vrai.
Ah bon? Ouais. La honte. Oh, j'avais l'impression que ma jeunesse, c'était le paléolithique.
Wow. Zoé, cette planche de skate, tu t'en sers pas?
Non, j'en ai pas besoin.
Ça m'étonne pas.
J'en fais pas beaucoup.
Franchement, petite table vintage, ça passerait trop bien dans mon appart.
Vas-y, prends. Mon fils est pas très casse-cou, mais il n'en fera jamais.
Et toi aussi, du coup. T'aurais pas, genre... tu vois, une petite machine à écrire. Hein, tu vois...
Une machine à écrire?
Ouais. Hein?
Tu fous de moi? Je suis pas du 19e siècle, moi. Une machine à écrire. N'empêche que j'étais super contente. Hein. On y voyait plus clair.
Donc c'est bon, ça y est. Il y a de la place pour ma batterie, mon synthé et ma collection de maracas.
On monte tout ça chez toi?
En fait, faut faire de la place chez moi d'abord. Ça te dérange pas si on laisse ça ici pour le moment?
Créatif mais gonflé, j'espère que t'as dit non.
Mais je pouvais pas refuser, il m'a quand même vachement aidé. C'est dommage, hein. J'étais à ça de faire de la place.
Anne, bienvenue à la table de C'est à vous, aux côtés de votre confrère des grosses têtes sur RTL, Paul El-Karat. Salut Paul.
Bonjour.
Et quand je dis grosses têtes, c'est tout sauf usurpé. Vous avez réponse à toutes ou presque. On rappelle que vous êtes le 4e plus grand champion des 12 coups de midi. Grâce à votre mémoire phénoménale, qui vous vaut le surnom de Wikipol, vous en expliquez le fonctionnement très spécifique, mais aussi la charge psychologique que cette mémoire si efficace peut représenter dans votre livre. On en parle dans un instant. Mais je vous présente Jacques Ribaud, qui est l'auteur de cette magnifique assiette. Non, mais je suis bluffée parce que j'aurais pas mis un couperet.
Je t'ai la venue dans la voie.
Non mais c'est tout était mêlé, ça ressemblait à rien en cuisine.
Ça ressemblait à rien, mais voilà, on a éclairci tout ça. On a éclairci tout ça.
C'est magnifique,
c'est très bon surtout. J'ai goûté.
C'est très bon.
C'est gentil.
Alors
donc petite bonite, juste poêlée à la minute, à d'oreiller, encre en plat de sèche.
pâte de citron et une petite crème de chou-fleur. Voilà.
C'est et de la laitue de mer. Quand
la
on mange
mertensia,
ça.
Mertensia, feuille de mer, ouais.
C'est ça, goût d'huître.
Ça goût d'huître, exactement.
Exactement. Voilà. Mais vous revenez quand même demain, Jacqueline.
Avec plaisir.
Pour le dernier dîner de C'est à vous, Michel Polnareff.
Mais bonite, c'est un nom chic pour du thon, en fait.
Non, c'est, parce que c'est petit. C'est des petites bonites de Saint-Jean-Luz. Elles sont toutes petites.
Ouais, et c'est délicieux.
Donc c'est vraiment la bonite à d'oreiller. Elle vient vraiment de Saint-Jean-Luz, elle a été pêchée.
Vraiment.
Voilà, et ça se mange vraiment rosé. Voilà.
Merci, cher Jacqueline.
Merci, chef.
Merci.
Bienvenue dans mon monde. C'est le titre de votre ouvrage, cher Paul. Votre monde, c'est une bibliothèque ultra bien rangée. Vous y trouvez tous les livres que vous avez vus, mais aussi toutes les informations sur tous les sujets dont vous avez pris connaissance. Votre cerveau mémorise absolument tout ce qui lui passe sous les yeux, Paul.
Alors, je tiens à préciser qu'il y a des choses qui me passent sous les yeux et dont
vous laissez passer.
Je laisse passer, si tant est que j'y arrive. Mais en tout cas, j'ai à cœur de garder le maximum d'informations que je mémorise, que ce soit une fois, deux fois ou trois fois, ça peut maximum. Mais en tout cas, ce que je lis, je le retiens plutôt bien. La preuve.
Chaque fois que vous voyez un chiffre, ça vous rappelle forcément une information. Par exemple, je ne sais pas quelle heure il est là.
En fait, là, il est 20h40, donc ça est 2040, et je ne vois pas encore dans le futur.
Ah.
Et Doc.
Ah ben là, je suis bien vue.
Ouais, à 20h22, à la limite, j'aurais pu encore vous dire quelque chose. Mais...
mais c'est qu'on est en 2022.
Bah oui, voilà, c'est pour ça. Mais
bon, bah, si je vous dis 15h36.
15h36 ? Oh, ça me... Montaigne avait 3 ans. Allez, hop.
Et voilà. Et
quelqu'un est mort en 1536.
Quelqu'un est mort.
Un philosophe.
Oui, Érasme.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
C'est quand même incroyable. Cette hypermnésie, c'est pas tout le temps un cadeau.
Oui.
Et vous racontez très bien ce que ça peut représenter aussi, des moments pas toujours faciles, pas toujours simples.
Non, c'est vrai que quand on se dit « Paul a un cerveau exceptionnel, il mémorise beaucoup de choses, j'aimerais avoir son cerveau pour mémoriser telle information ou telle autre », mais il ne se rend pas compte de la noirceur et de l'immense difficulté que c'est que de se souvenir de choses qui sont négatives au possible et qu'on aimerait oublier et qu'on n'y parvient pas. Voilà, les choses qui nous torturent, les choses qui nous amènent à une forme de dépression chronique, voilà, ce genre de choses, c'est assez difficile pour moi à supporter, à vivre. Ouais.
Quand on parle du droit à l'oubli,
oui.
Vous aimeriez bien que ça s'applique à vous de temps en temps.
Il y a des choses il y a des choses qui tombent dans l'oubli et qui ne le méritent absolument pas, parce qu'il y a pire que la mort, il y a l'oubli, hein, évidemment. Et il y a des choses que l'on aimerait absolument oublier, mais qui restent dans la tête. Et ça, c'est une chose très... assez... c'est torsionnaire, quoi. C'est assez horrible, quoi. Ça nous torture un peu. Mais bon... je suis habitué depuis tant d'années, je devrais me dire, moi je suis, oh ben c'est la routine. Mais non, je suis toujours étonné de la puissance de la mémoire quand elle est soumise à rude épreuve. C'est quand même assez difficile, quoi.
Patrick.
Vous avez été diagnostiqué Asperger à l'âge de 16 ans. Ce qui est incroyable, c'est que c'est votre grand-mère qui, en regardant une émission ou un reportage... oui, à la télé sur le syndrome Asperger, qui a dit, mais c'est ça qu'il a, mon petit-fils.
Oui, c'est ça. Elle s'est dit que ça ressemblait de près ou de loin à moi, surtout de près. Et elle s'est dit, mais pourquoi Paul ne serait pas, on va dire, porteur de ce syndrome autistique? Ça lui ressemble un peu, avec les facultés qu'il a, la mémoire qu'il a, et aussi le fait qu'il soit un peu en décalé, qu'il soit un peu étrange, on dit, par rapport aux autres. Mais encore, étrange, ça prend avec des pinces. Mais en tout cas, c'est pour que les gens comprennent, évidemment, que j'emploie, que j'emploie des termes triviaux, on va dire.
Mais... Et jusque-là, les psychologues que vous voyez depuis que vous étiez enfant n'avaient rien diagnostiqué,
n'avaient rien décelé, ils n'ont rien su me dire, hormis que j'étais tout à fait, entre guillemets, encore une fois, normal, et que mes parents n'avaient pas besoin de s'en faire, que j'étais un petit garçon plein de vie qui n'attendait que de grandir et de s'épanouir, mais bon. Ça a été le cas, mais je suis resté plutôt seul. Mmh. Voilà. Donc.
Maintenant.
Ouais.
Maintenant, t'es pas.
Oui, maintenant. Mais
alors, maintenant, vous êtes seul ou bien?
Non, il y a des fois, je me sens seul parce que je me sens pas compris sur certains sujets, mais il y a d'autres fois où je suis content qu'il y ait des gens qui me comprennent et qui m'écoutent et avec lesquels je peux tendre à la discussion. Donc, je suis quand même content.
Mais dans le bouquin, vous racontez des situations auxquelles on ne pense pas forcément, mais d'un seul coup, vous avez une réaction qui vous bloque quand sur les 12 coups de minuit,
De midi.
Oui. Il y a une mouche qui s'invite sur le plateau. Jean-Luc Reichmann l'écrase, ça vous rend fou.
Oui, non, mais c'est parce que c'est la mise en c'est la mise à mort d'un animal, voilà. Peu importe quel qu'il soit, et donc on n'est pas dans l'arène ici. J'ai envie de dire, donc j'ai pas envie que des individus s'amusent et rigolent sur le fait qu'un animateur soit perturbé par un animal et qu'il s'arroge le droit de le tuer. Voilà, c'est ça qui m'a rendu un peu zinzin.
Non, mais on comprend ce raisonnement, alors que nous, c'est vrai qu'on peut.
Écraser une fourmi, par exemple.
On va écraser une fourmi, on ne va pas se poser la question.
Après, il y a aussi écraser un animal par inadvertance du fait de sa petitesse, comme écraser une fourmi par terre sans crier garde. Mais il y a la volonté de tuer l'animal, qui est quand même deux choses différentes, bien distinctes.
Oh bah quand c'est un moustique, non ?
Mais moi, j'ai souffert des moustiques et je ne les tue même plus. Donc, je suis bien placé pour le savoir, parce que en fait, j'ai été aux Antilles. Et là-bas, c'est pas juste ils te piquent, c'est ils te refilent pas mal de choses, pas très sympa. Et donc j'ai souffert de la dengue et du chikungunya. Je suis très bien placé. Et pourtant je les tue pas. Voilà, je les laisse vivre. Voilà, même les moustiques, pour te dire. Alors on va dire que je suis un psychopathe, mais pour l'instant c'est comme ça que je le considère. Voilà.
Vous avez raison, Paul. Vous parlez d'amour aussi dans le livre. Vous dites n'être jamais tombé amoureux, même si vous avez connu. Plusieurs filles, par exemple Sarah, c'est la première.
Alors c'est des noms trafiqués pour
qu'elles se reconnaissent pas.
Pour qu'elles se reconnaissent pas.
Parce que j'ai pas envie d'avoir des.
Oui, et elle dit être amoureuse de vous, Paul, au bout d'une journée seulement, et vous lui dites mais Sarah, c'est impossible. Alors c'est quoi, c'est alors, du moi, romantisme
j'ai pas... Oui, non, mais c'est parce
ou au
que
contraire je... du non, un réel pragmatisme.
Alors c'est soit c'est un coup de foudre qui peut être mal placé, soit c'est de l'érotomanie à faire se faire. Je sais pas. Je n'arrive pas à saisir.
En fait. Si vous commencez à dire ça quand quelqu'un dit qu'il vous aime, c'est pas bien ça.
Non, mais c'est-à-dire.
Il faut rester ouvert aux opportunités.
Mais attendez, Anne, je n'ai pas tout dit encore. Il y a le fait d'aimer quelqu'un. Il y a un autre fait qui est de le poursuivre, de le harceler. C'est pour ça que je parle d'érotomanie, en fait. C'est quand je dis une fois je t'apprécie, mais je ne t'aime pas d'amour profond. Il faut le saisir, pas me poursuivre, m'insulter parce que les sentiments ne sont pas réciproques. Voilà, il y a deux poids, deux mesures, j'ai envie de dire. C'est sûr que si après je vois ce genre de comportement, je me dis que j'ai bien fait d'être passé au travers des griffes de ce entre guillemets de ce rapace.
Oh, bah, dis donc.
Non.
Elle est contente d'être venue, Sarah.
Non, mais
enfin, bon, qui ne s'appelle pas Sarah.
Sarah, c'est un nom
assez général. D'accord.
Oui, mais ça peut arriver. C'est des choses qui me sont arrivées. C'est pour ça que
vous êtes déjà tombé amoureux.
Bah non, justement, je l'ai dit dans le livre que j'ai pas encore pris le temps de laisser s'installer le sentiment amoureux. Voilà. Donc peut-être
ça sera l'objet d'un deuxième livre.
Oh ben, le romantisme, le retour.
Ou bienvenue dans mon monde amoureux. Voilà, il s'agit.
Bienvenue dans mon monde amoureux. Ouais, voilà. Écoutez, je pense que s'il y a un nouveau sentiment qui se présente, il y aura beaucoup de choses à dire. Ça, c'est sûr.
Paul Elkarat, moi, Paul, autiste Asperger. Bienvenue dans mon monde. Pour mieux vous comprendre et aussi pour comprendre pourquoi vous détestez le mot normalité, et ce que vous dites le plus souvent, c'est qu'on est tous l'autiste de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, cher Paul.
Merci, Paul.
J'offre immédiatement votre livre à Anne. Anne Roumanoff & Co. s'amuse. C'est le dimanche 4 décembre 2022 à l'Olympia. Merci, chère Anne, d'être
venue
sur le plateau. C'est à vous. On conclut cette émission, comme tous les soirs, par les actualités de Bertrand.
Bertrand ?
Bertrand.
Bonsoir à la une de ce 17 novembre, J-3 avant le début de la Coupe du Monde qui se tient, je le rappelle, dans le pays où tout est permis.
Tout est permis ici, sauf qu'il faut respecter nos traditions, il y a des règles à respecter.
Tout est permis avec un astérisque et des conditions générales. Lui est déjà arrivé là où tout est permis, Jacques Vendroux, ce matin. Il était en direct chez son ami et collègue Pascal Praud. Et de mémoire de chaîne info, on avait rarement vu un duplex qui ressemble autant à une visio familiale. Vous savez, un Skype qu'on fait pour prendre des nouvelles de tonton qui est parti en vacances.
Vous allez voir l'équipe de France ? Vous allez aller à l'entraînement d'équipe de France ?
Eh bien, on y va cet après-midi.
Ah, ça c'est bien. Bah, et à quelle heure vous y serez ?
Eh bien, on y sera vers 15-16 heures. Je vais vous faire marrer. Hier soir, je suis arrivé tard. Je me suis commandé un petit club sandwich.
Et c'est vrai que c'est marrant. Moi, je connaissais la même, mais avec un hot dog. Et Pascal, vu que tu es à côté, tu peux lui demander à tonton ce qu'il pense des paysages ?
Bon, vous êtes bien installé, tout va bien, il n'y a pas de soucis, la ville est belle.
Il y a beaucoup de mosquées. Oui.
Alors, en même temps, t'es au Qatar. Enfin bon. Et comme toutes les visios, est arrivé le moment où le réseau est passé en edge, ce qui, vu le commentaire sur les mosquées, semble avoir arrangé Pascal Pro.
D'accord. Tous les matins sur Europe, en toute la durée de la Coupe du Monde. Et.
Eh bien, je vous remercie. Voilà, ça a été coupé.
De l'encre noire, vous auriez pu me le dire.
À ce moment-là, on avait tout dit, l'essentiel.
Tant mieux. Allez, on embrasse tout le monde, on se retrouve lundi. Dans le reste de l'actualité, cette chouette initiative dans le Rhône pour célébrer les 120 ans d'une entreprise. Le patron a organisé un tirage au sort pour offrir le cadeau de ses rêves à l'un de ses employés. Chacun pouvait demander ce qu'il voulait. Mais c'est Christelle qui a gagné. Elle avait demandé une maison qu'elle va bientôt obtenir. Mais histoire de bien mettre les boules aux perdants, le JT de France 2 est allé interroger les perdants de la boîte.
Moi, c'était une voiture de sport.
Déçu ?
Non.
C'est un appartement en Corse. Ouais, je suis parti en vacances là-bas cet été, j'ai trouvé ça magnifique, donc je me suis dit pourquoi pas avoir un putataire là-bas, quoi.
Ce sera pas pour cette fois ?
Non, tant pis pour moi.
Et non, pas top, vous avez quand même un peu les glandes. S'il vous plaît, pleurez devant la caméra, ce serait sympa. Et de son côté, le 13h de TF1 a interrogé les faillots de la boîte. Ils ont les boules, mais ils ont mis la déception de côté le temps du sonore, mais ça se sent un peu que c'est encore là.
C'est vrai que j'aurais bien aimé que ça soit moi, mais bon, je suis contente pour Christelle.
Ben moi, je trouve que c'est super, parce qu'elle a 20 ans d'ancienneté dans la boîte. Je trouve que c'est une bonne reconnaissance.
Après, ça reste quand même cocasse que ce soit celle qui vole des ramettes de feuilles à 4 et des rouleaux de PQ qui gagne, mais bon, elle va pouvoir profiter. Enfin, plus, puisque t'arrives à 10h12 aujourd'hui. International, après le Kearny d'Espion, après Rio ne répond plus et alerte rouge en Afrique noire, le nouvel opus d'OSS 117 est sorti. Ah. Emmanuel Bonisseur de la BAT est arrivé à Bangkok aujourd'hui où il a été traîné comme un écolier par le Premier ministre thaïlandais. Si tu viens, je te dis, on va à l'école. Il a fait gouzi-gouzi à un bébé qui n'avait rien demandé. Il est allé à la rencontre de boxeurs thaï car il aime se battre. Et il nous a offert une sortie de chant digne d'OSS 117.
Une coopération de nos marines. On file, à tout à l'heure.
On file, à tout à l'heure les enfants. Et face à la communauté française, ce n'était pas Emmanuel Macron, le président, qui s'exprimait, mais le stand-upper. Écoutez les réactions du public, les rires de la salle sont d'origine, on n'a rien trafiqué.
Plus de 14 000 compatriotes résident en Thaïlande, au registre des Français de l'étranger. Donc ça c'est, si je puis dire, déclaré par la police. Mais généralement, en la matière, c'est plutôt le chiffre des manifestants qui est le vrai. Et donc, c'est à peu près le double, me dit-on.
Si j'étais vous, je ferais gaffe parce qu'il marche, il veut venir vous concurrencer. Un président tout en gestuel qui a tenu à illustrer aujourd'hui tous ses propos par des mimes. L'occasion pour nous de jouer à Qu'est-ce qui mime le président ? Vous allez voir des extraits sans le son. À vous de deviner quel mot ou quel verbe mime le président. Premier extrait. C'est un verbe, c'est facile.
Rayer.
Quand il fait ça.
Écrire.
Écrire.
Et non. Oui, on vérifie.
Oh non, t'es trop fort en qui qui mime.
De signer des documents, c'est que...
Un point pour Patrick, attention, plus compliqué. Deuxième mime fier, Patrick. Présidentielle. Alors attention, qui
élevé,
mime.
Élevé, soutenir. Augmenté.
Non, il ne s'agit pas d'un palpé testiculaire, mais enfin Patrick.
Équilibré.
Équilibré.
Accompagné.
On vérifie.
Et d'équilibre, d'une sorte d'équilibre dynamique.
Égalité, Babette Patrick, attention, c'est le super banco. Dernier mime.
Vas-y. Se battre.
La force.
Mettre un coup de poing.
Tous. À quoi vous pensez ?
Non, soutenir.
Soutenir ?
Non, défoncer.
Vérification.
Marquer une volonté de la France.
Ah, il y avait un truc quand même.
De la volonté, égalité pour Patrick et Babette. Bravo à vous deux. Allez, tout de suite, un autre jeu. Qu'a fait Gérard Larcher hier soir pour être aussi claqué ce matin ?
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Gérard Larcher.
Bonjour.
Et oui, son état empire de jour en jour désormais. Il dort dès le bonjour des interviews et comme d'hab, il termine sa nuit tout au long de l'entretien.
La Russie porte la responsabilité car c'est le résultat direct de la guerre qu'elle a déclenché et des attaques massives. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron, j'ai vu que le président Biden. L'immigration du travail par des quotas décidés par le Parlement.
Je pense savoir ce qu'a fait Gérard hier soir.
On est quel jour ?
17 novembre, jeudi 17 novembre.
Troisième jeudi du mois de novembre.
Nous lançons l'ouverture du Beaujolais nouveau.
Il est comment le Beaujolais cette année, tiens ?
Il paraît cette année qu'il n'est pas trop mal.
Ça fait plaisir, ça fait plaisir.
banane, cerise, fruit rouge, ce que vous voulez.
Voilà, bref, c'est un bon millésime, hein, comme chacun année, j'allais dire.
C'est festif.
Bah oui, c'est festif, le Beaujolais nouveau, ma bête. Aïe, c'est le jour où notre haleine devient fétide et nos lèvres violettes. Le lancement du Beaujolais nouveau, l'occasion pour BFM de nous prouver qu'il n'y a pas que la France qui a d'incroyables talents. Adeline François aussi.
Le bruit du Beaujolais dans le verre, Adeline.
Mais tu le
sais
connais,
faire, toi?
Oui, mais bien
non,
sûr.
Tu sais faire, toi. Vas-y.
Mais elle le fait super bien. Hein.
C'est bien,
c'est...
Oui, non,
ouais, c'est pas ouf, mais c'est bien tenté. Un Beaujolais nouveau à consommer avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommer 5 fruits et légumes par jour, mais célébré dès hier soir par de nombreux Français.
Il est très joyeux cette année, il est très festif. Meilleur que l'année dernière. Et voilà.
Bien meilleur que l'année dernière.
Oui.
Bien meilleur que l'année dernière. Ah ça oui, clairement les Français ont besoin d'oublier l'actu. Je ne sais pas si cette année le Beaujolais nouveau a un petit goût de banane. Mais une chose est sûre, les reportages avaient un petit goût de gens trop guillerés qui parlent trop près de la caméra avec une grosse lumière dans la tronche.
Il est très bon, il est très fruité.
Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait avec le Covid. C'est toujours un plaisir de se retrouver pour le Beaujolais.
La framboise, la fraise, très bon Beaujolais primeur.
La framboise, cerise, topinambour, on s'en fout, on est tous des frères ce soir.
Vous avez vu Didier.
C'est vrai qu'à la suite du lancement, attention, voici plus périlleux, le combo analyse Beaujolais et réchauffement climatique, mais à 4 grammes.
Comme l'année dernière, il est très très fruité et vu avec le changement climatique, il est meilleur dernière année.
Notre maison brûle, mais remets-moi la petite sœur. Et on referme ces actualités avec un bonus tout droit venu du Sénat.
La parole est maintenant à notre collègue Michel Bonus pour le groupe Les Républicains.
Voilà, c'était le bonus. Là, on continue demain, bonne soirée.
Bravo, belle branche de roi. Voilà. Commencer dans la nuit, Beaujolais, à minuit, quoi, donc.
Tout à fait,
ok. Merci beaucoup, cher Anne, Paul. Tout de suite sur France 5, la soirée Science Grand Format, cher Patrick, de Mathieu Bidard. Ce soir, l'univers, la Voie lactée, notre galaxie. Si vous voulez bien vous tourner vers Vince pour saluer nos téléspectateurs, oui. Merci de nous avoir suivis. On fait un pas.
Moi, je refais comme hier, je vais être sur la photo tous les soirs.
On sera là demain soir à 19h. demain soir à 19h30.
Ouais. Mais je sais rien.
Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.